Laurent Gervier, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur Radio Maria. Alors aujourd'hui, vous intervenez dans le cadre d'une émission sur le couple, le beau plan de Dieu sur mon couple. Alors on va écouter votre exposé en première partie d'émission et les auditeurs pourront ensuite poser des questions. Mais auparavant, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
En quelques mots, alors Laurent Gervier, je suis de Vendée. Et je suis marié à Nadège depuis 15 ans, nous avons 3 enfants, et je suis dans la vie commerciale, dans la quincaillerie, et je suis engagé dans mon église locale, en paroisse, et puis un petit peu pour le diocèse, notamment au service de l'accompagnement des paroisses, dans la redynamisation des paroisses, avec les outils alpha, les parcours alpha, que vous pouvez connaître, et puis j'ai été un petit peu dans la pastorale familiale aussi. Voilà.
Alors justement, on va parler de famille et plus précisément du couple avec vous.
Alors oui, dans le cadre aussi de comme support de la théologie du corps que Jean-Paul II avait développé. Et effectivement, il a eu de cesse d'observer l'homme et la femme, le couple, et d'en méditer et l'origine et la finalité. Et de cette méditation, de ces expériences de pasteurs, d'évêques, en Pologne notamment, en accompagnement des jeunes, il a rédigé des catéchèses qui sont rassemblées dans ce que l'on appelle aujourd'hui la théologie du corps. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette théologie ? C'est vraiment cette méditation que Jean-Paul II a faite sur qu'est-ce que l'homme à l'origine. Qu'est-ce que l'homme, finalement, dans son histoire humaine, et qu'est-ce que l'homme, appelé par Dieu à devenir saint et aux noces éternelles. Alors, il a rédigé, en fait, 129, il a donc exposé ses catéchèses au cours des mercredis, des audiences générales du mercredi. Elles sont au nombre de 129, bien qu'il en ait écrit 135. Il a pris le temps de les exposer de manière un petit peu homéopathique, parce que c'est vrai qu'elles sont très denses, et elles répondent en fait tout simplement à un besoin fondamental des hommes et des femmes de notre temps, finalement de retrouver des fondements anthropologiques solides qui leur permettent de comprendre qui ils sont et à quoi ils sont appelés, alors que ces fondements sont ébranlés comme jamais ils ne l'ont été aujourd'hui. Donc cette anthropologie, c'est de comprendre le sens de l'homme, qui il est, Et donc cet EDC, la théologie du corps, est une vision intégrale de la personne humaine, corps, âme, esprit. Car le corps humain, finalement, a une signification précise. Une signification précise dans le plan de Dieu. Et donc ça répond à ces questions. La vie a-t-elle un sens? Et si oui, quel est-il? Pourquoi avons-nous été créés, hommes et femmes? Que nous soyons de l'un ou de l'autre sexe, importe-t-il vraiment? Pourquoi l'homme et la femme étaient-ils au commencement appelés à la communion? Qu'est-ce que l'union conjugale d'un homme et d'une femme dit de Dieu et de son plan pour notre vie? Quel est le sens des vocations au mariage et au célibat? Qu'est-ce qu'aimer? Est-il vraiment possible d'être des cœurs purs? Ça répond un peu à tout cela. Et donc, Saint Jean-Paul II a médité ses catéchèses, enfin rédigé ses catéchèses en méditant principalement dans Matthieu, au chapitre 5, au verset 27, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, et qui dit ceci: vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Voilà sur quoi s'appuie Jean-Paul II pour rédiger quelques 135 catéchèses. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit de ça? Comment Jésus répond à cette interpellation? À l'origine, nous dit-il, il n'en était pas ainsi. Et il nous renvoie finalement au projet initial que Dieu avait depuis tout temps lorsqu'il a créé l'humanité. Et donc cette humanité qu'il crée en 6 jours exactement, le 7e se reposant, Voilà, il fit toute la création, les arbres, la mer recouvrait encore la terre, et bien il crée les rivières, il crée les océans, il crée les bêtes de la terre, et donc c'est ce que nous rappelle d'ailleurs le pape François dans Laudato si, voilà, cette terre qui nous est confiée, est confiée à l'homme. Et donc le sixième jour, il crée l'homme. Et à chaque fois qu'il crée, un jour passant, il dit « cela est bon ». Cela est bon. Et l'homme, au sixième jour, il regarda cette création et il dit que c'était bon. Cela était bon. Et l'homme, dans la création, est une bonne chose. La création est une bonne chose. Et donc c'est à cela que nous renvoie Jean-Paul II et Jésus lorsqu'il répond aux pharisiens. Regardez, à l'origine, il n'en était pas ainsi. Il n'était pas ainsi parce qu'on était dans une unité en relation avec le Créateur. Lorsque Dieu passe dans le jardin d'Éden, contemple sa création, cherche l'homme, il y a toute une unité. L'homme est uni au cosmos, à Dieu tout entier. Et puis, il se passe finalement que l'homme doute de Dieu, et finalement dans ce doute, refuse le projet que Dieu avait pour l'homme, c'est-à-dire cette harmonie totale, unitive, et donc l'homme, quelque part, se sépare de Dieu, bien que Dieu soit toujours à vouloir chercher l'homme, et en refusant cette unité, cette présence de Dieu dans sa vie, ce péché d'orgueil, fait qu'il n'est plus en unité avec tout le cosmos et avec sa propre existence. Il y a comme un virus, si vous voulez, qui s'est installé et qui désorganise tout l'homme. C'est la relation qu'il a à l'extérieur et la relation qu'il a avec lui-même à l'intérieur. Et donc, cette désunité le conduit à avoir des attitudes, effectivement, au regard de la création qui lui est confiée. Il utilise finalement, il cherche à compenser finalement cette solitude intérieure en abusant des choses qui lui sont confiées. Et c'est pour ça que finalement, lorsqu'il regarde la femme qui lui est confiée, qui à l'origine, lorsqu'elle est créée, il voit son alter ego, la chair de ma chair, les os de mes os, qui le révèle pleinement dans son humanité, eh bien, il la regarde avec un œil concupiscent. Et Jean-Paul II développe ça très bien dans ses catéchèses. Il chosifie son épouse. Et donc, c'est ce regard concupiscent sur son épouse et sur toute la création qui fait qu'il est dans l'excès, et il n'est plus dans le... Il est dans l'appropriation des choses et non plus dans le don réciproque. Et c'est ce que Dieu cherchait à l'origine, à se donner gratuitement, comme dans la Trinité, si vous voulez. Voilà, le Père donne tout à son Fils et le Fils donne tout au Père. Et de là jaillit la vie. Eh bien, c'est cette relation-là à laquelle Dieu souhaitait inviter l'homme, dans ce don qu'il fait de la création, lorsqu'il dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », c'est une relation d'amour qu'il cherche à vivre. Et donc l'homme, la réponse de l'homme n'a pas été faite dans les attentes que Dieu avait. Voilà. Et sinon, nous aurions vécu effectivement une harmonie, un don mutuel d'où jaillissait la vie, comme le disait comme le proposait le Dieu. Voilà, multipliez-vous. Soyez féconds. Mais de cette histoire, le Père, dans sa grande bonté, envoie donc son Fils, le Christ, pour racheter toute l'humanité. Et donc ça, c'est le deuxième volet des catéchèses. Vous avez dans les catéchèses de la théologie du corps que Jean-Paul II a développé, trois parties bien distinctes qui permettent de bien comprendre finalement l'histoire de notre humanité. Donc je viens de le dire à l'origine, voilà, qu'en était-il à l'origine? Donc vous pouvez vous référer à Matthieu 19, 3-9. Et puis donc le Père envoie son Fils pour que le Christ, finalement, par son humanité divine, traverse notre humanité. Le Christ nous appelle, nous interpelle au cœur de notre vie. Il vient frapper à notre porte pour nous inviter à le rechoisir et à le laisser par son esprit vivre en lui. Et à retrouver finalement, il nous réinstalle dans cette relation de fils et de créature fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et puis, vous avez ensuite une nouvelle perspective que nous invite le Christ à regarder, qui est celle de notre finalité. Voilà. Nous sommes des êtres qui vivons dans un temps, mais qui sommes appelés à une destinée qui nous dépasse, qui est celle des noces éternelles. Et donc, en prenant conscience, donc ce deuxième triptyque, le Christ en appelle au cœur, c'est Matthieu 5, 27, et puis le Christ, lorsqu'il nous permet de regarder notre finalité, et donc de comprendre ce qu'est la résurrection, c'est dans Matthieu 22, 23, 32. Et donc de là, en fait, on a déjà un premier éclairage, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut, en fait, regarder notre histoire pour bien la comprendre, l'accueillir et vraiment cheminer dans une conversion pleine d'espérance réelle et engagée en ayant ces trois volets dans ce triptyque. Donc, à l'origine, dans notre histoire aujourd'hui, le Christ est ressuscité. Et il nous invite à cette perspective de notre destinée finale, les noces éternelles. Et ça, on le comprend dans ce qu'on appelle la grande analogie, qui vient cette phrase d'Éphésiens 5, 31-32, lorsque l'on comprend que le Christ, finalement, vient épouser son Église, comme l'époux a épousé son épouse. Ce que je suis occupé à essayer de vous faire comprendre, c'est que donc je vous introduis simplement tout ce que nous allons vivre pendant un an à travers les émissions, mais c'est voilà le schéma général que Jean-Paul II a développé dans ses catéchèses. Donc cette grande analogie du Christ et de l'Église, eh bien lorsqu'on la regarde dans la perspective de l'origine, eh bien on comprend mieux. Voilà quel était réellement le projet de Dieu, de nous amener à comprendre qui il était dans cette relation d'amour, dans un don total qu'il a fait de lui-même en nous créant, homme et femme, nous invitant à nous regarder époux, épouse et à nous choisir et ne faisant plus qu'un. Et comme, voilà, il y a eu un bug, eh bien le Christ dit, je ne laisse pas comme ça, je viens leur montrer ce à quoi je les appelle, et je viens restaurer cette filiation. Et donc, cette analogie est encore là éclairante, puisque du coup, le Christ vient épouser son humanité, de manière concrète, charnelle, parce qu'à la fin, notre destinée, c'est bien d'épouser le Christ dans notre plénitude totale au jour de la naissance au ciel. Et l'époux et l'épouse, l'homme et la femme, depuis l'origine, sont l'expression de cet amour de Dieu pour l'homme. Ils se donnent l'un à l'autre totalement dans un don gratuit. Et Jean-Paul II revient souvent sur cette phrase qui est dans Gaudium et Spes, dans le fruit du concile. Voilà, dans ce qu'on, le verset c'est 24:3, Gaudium et Spes. Alors, cette ressemblance, du coup, de l'homme et de la femme et de Dieu avec l'homme, cette ressemblance montre bien que l'homme, seule créature sur terre, que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. C'est bien dans un don désintéressé, dans un don gratuit, que l'on se découvre. Lorsque l'homme découvre Ève, Ève découvrant Adam, ils s'éclairent l'un l'autre et n'attendent rien de plus que d'être dans leur nudité originelle, en vérité pleine et en don total de leur personne. Or, en ayant choisi de se regarder soi et de douter de cet amour qui est donné, eh bien, l'homme se désunifie de son origine divine. L'homme fait à l'image la ressemblance de Dieu, porte en lui quelque chose de divin qui le dépasse. Et cet amour est à redécouvrir en la personne du Christ. Et donc lorsque le Christ vient épouser son Église, son humanité, c'est pour nous permettre donc dans cette filiation de se réapproprier ce don gratuit voilà, des êtres, des hommes et des femmes entre eux, des époux et des épouses, qui montrent par leur vocation d'époux et d'épouse cette finalité, comment dire, divine à laquelle on est appelé. Et donc là, j'introduis la notion des vocations. Finalement, hommes et femmes, il les créa, multipliez-vous. À l'origine, il n'y avait qu'une vocation. Avec le Christ, une deuxième vocation apparaît, celle du célibat pour le royaume. Et donc, les prêtres, les moines, toutes les personnes consacrées au Christ dans leur célibat montrent quelque part déjà, anticipent ces noces éternelles, cette finalité, notre destinée. Et donc, ce qui est très bon dans ce que développe Jean-Paul II, dans ce qu'il a mis en avant, qui est nouveau, qui était nouveau finalement, ça n'avait jamais été développé comme il l'a développé, c'est que le Christ, au milieu de son humanité, restaure l'homme et la femme dans leur vocation originale, et avec le célibat pour le royaume, eh bien, montre que ces deux vocations sont complémentaires l'une de l'autre. Comme le Christ épouse son Église, comme l'époux a épousé son épouse, eh bien, d'ailleurs ce sont des textes qui sont choisis pour le mariage, eh bien du coup, le prêtre ou la personne consacrée vient finalement montrer de manière visible que c'est notre destinée que d'être en harmonie avec Dieu, en don total, dans le don total de sa vie, voilà, il montre que c'est notre finalité, que d'être tout donné à Dieu, voilà, en vue des noces éternelles. Et le couple, dans son rapport de don mutuel des époux, eh bien, vit ce don aussi. Et les deux vocations ensemble montrent finalement l'origine et la finalité. Voyez ? Et donc, tout se tient par la personne du Christ. Voilà, j'espère être clair. C'est un sujet qui est dense. Et donc, j'aimerais... En fait, Jean-Paul II aussi nous invite à regarder cette perspective pour replacer aussi notre vocation d'hommes et femmes, alors dans notre vocation que l'on que l'on s'approprie, que l'on cherche à, comment dire, à répondre, si c'est un choix de célibat ou si c'est un choix dans le mariage. Et dans le mariage notamment, il nous invite à la fin de ses catéchèses à regarder finalement que l'homme et la femme ne sont pas seulement des dons l'un pour l'autre et ils s'éclairent l'un l'autre et ils sont participants de l'œuvre de Dieu dans la création, dans la continuité de l'espèce, mais dans l'œuvre même de Dieu qui est de donner la vie dans le don de l'amour gratuit. Et donc à la fin du catéchèse, Jean-Paul II remet un éclairage sur une humanité qui avait été un petit peu mal compris, voilà, en disant que c'était une régulation responsable des naissances, alors que finalement Jean-Paul II l'élève un peu plus en disant que c'est une collaboration responsable avec Dieu du don de la vie. Et donc c'est très beau finalement d'avoir cet héritage que Jean-Paul II nous a laissé, c'est très riche et c'est vraiment une réponse pour notre temps. Je pense que notre société a besoin d'être enseignée sur ce sujet parce qu'elle permet effectivement d'apaiser notre vision de la famille, notre vision du couple. Nous-mêmes, avec mon épouse, nous sommes une famille recomposée parce que on est un petit peu défiguré parce qu'on n'avait pas vu qu'à l'origine, Dieu avait un beau plan pour nous, un plan d'amour. Il avait un regard de père pour ses enfants. Et donc, en se retournant sur nous-mêmes, en se recroquevillant, en étant égoïste, voilà, finalement, en perdant le sens du don, on perd le sens de la vérité. Et donc, je terminerai simplement en vous redisant, effectivement, c'est ce triptyque qui est plus facile à comprendre, donc avec le Christ à l'origine, le Christ qui en appelle au cœur, le Christ qui en appelle à la résurrection, et puis tout ça couronné par cette grande analogie du Christ et de l'Église, de l'époux et de l'épouse, en Éphésiens 5. Et puis vous dire que pour moi, lorsque j'ai découvert la théologie du corps, je suis tombé dessus un peu par hasard, plus ou moins parce que je cherchais à comprendre pourquoi l'homme, quoi. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui finalement, Seigneur, pourquoi as-tu créé l'homme? Qu'est-ce que je fais là? Et donc en cherchant, je suis tombé sur une formation qui allait arriver dans mon diocèse. Je m'y suis inscrit. Elle n'est pas un niveau d'études extraordinaire. Elle était donnée par Yves Sénès, qui est donc le référent français de la théologie du corps, qui a d'ailleurs un institut à Lyon et qui distribue des formations, toujours. Je vous invite à regarder son site. En apprenant ces catéchèses, il y a vraiment un éclairage, il y a une libération intérieure, j'ai presque envie de dire, qui s'est opérée chez moi. Ça donne une cohérence à notre existence humaine, ça donne une cohérence à notre existence de chrétien, d'homme de foi, ça donne aussi un chemin pour grandir, pour avancer, pour continuer à se convertir. Et à déculpabiliser aussi, parce que c'est possible de choisir la vie et de la comprendre. Je voulais vous dire, simplement ça, et je vous remercie.
Laurent Gervier, vous avez parlé du péché originel qui a conduit l'homme à rejeter le plan que Dieu avait pour lui. Est-ce que justement ce, ce, ce rejet inconscient du plan de Dieu ne conduit pas à une incompréhension entre l'homme et la femme de manière générale aujourd'hui?
C'est une bonne question. De fait, j'ai passé assez vite sur cette relation que l'homme et la femme, effectivement, ont dans notre histoire aujourd'hui, qui à l'origine, finalement, était l'un pour l'autre un éclairage dans leur être sexué. En fait, lorsque Dieu crée l'homme, l'homme est seul à nommer tous les êtres, tout ce qui est devant lui. Et c'est lorsque son épouse, donc Ève, la femme, se présente devant lui, que jaillit quelque part son existence. Et il fait « waouh, 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 la chair de ma chair », c'est-à-dire que l'intime de mon intime se révèle. Les os de mes os, tout mon être vibre du coup par cette altérité de la femme qui est devant lui. Et inversement pour Ève. Ève, on peut lire le texte comme ça aussi, hein, c'est en voyant Adam qu'elle révèle sa féminité. Et donc, votre question concernant que l'homme et la femme ne se comprennent plus aujourd'hui, parce qu'on est principalement occupé à se chercher soi, avec soi-même, alors qu'on ne va pas se confronter, entre guillemets, oser la relation avec l'être qui est différent de moi. Parce que comme on veut tout maîtriser, qu'on ne maîtrise pas l'être qui est devant moi, et sa personnalité et sa différence dans sa constitution humaine qui est d'être une femme, par exemple, pour un homme, ou inversement, eh bien, il y a déjà une difficulté d'accueil de l'autre, dans sa différence. Et puis après, il faut oser échanger en vérité, sans attendre finalement une réponse totale de l'autre qui viendrait combler ce bonheur que je cherche profondément. Et finalement, seul Dieu peut combler cette soif, ce vide intérieur. Et donc, la difficulté que l'homme et la femme ont aujourd'hui, c'est d'oser l'aventure, de la confiance, du don réciproque, du respect, et de la patience aussi, laisser le temps au temps à chacun de s'accueillir, de se regarder, de s'émerveiller, comme on peut s'émerveiller de regarder la nature. L'homme et la femme sont beaux, chacun dans leurs différences, dans leurs faiblesses, et apprendre à s'accueillir déjà et à s'émerveiller de l'autre est déjà un don pour l'autre, parce qu'il n'est pas jugé. Est-ce que ça répond à votre question ?
Oui, tout à fait. Nous avons eu une question de Christiane qui pose la question de l'homosexualité et plus précisément, comment faire entendre ce que vous avez exposé sur le plan de Dieu pour l'homme donc à des personnes homosexuelles ?
Alors, c'est une question qui est d'actualité et qui est sensible. De fait, dans notre recherche de bonheur, on recherche une plénitude. Et seul, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu peut donner cette plénitude et redonner cette unité intérieure profonde. Et donc, lorsque l'on chosifie les choses, enfin les ce qui nous entoure, et que finalement on a ce regard sur l'autre être humain, comme quelque chose que l'on peut posséder et non pas comme quelque chose qui nous est donné à recevoir, eh bien on est dans une attitude qui permet tout et qui dénature le corps. Et donc ce qu'il faut inviter à faire comprendre, à raisonner, à réfléchir avec la personne si on le connaît, c'est discuter sur la beauté du corps dans son être sexué, essayer de comprendre la masculinité et présenter la féminité et inversement dans ce qu'il y a de bon dans ce qu'ils sont. Et puis essayer de dire, voilà, à l'origine, on ne peut pas nier qu'il y a, toute spiritualité confondue, qu'il y a une origine avant l'homme, qui a créé la Terre, même les scientifiques ne l'expliquent pas, et le Big Bang n'explique pas tout. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment, Dieu existe, qu'on le nomme comme on veut, voilà, il y a une origine créatrice. Et donc si on donne la possibilité et que les personnes homosexuelles qui ont fait le choix, voilà, elles ne sont pas homosexuelles par nature, elles ont fait le choix d'une orientation sexuelle, ce qui est différent. Elles ont fait le choix d'une expression, du don d'eux-mêmes dans leur sexualité qui est différente de la vocation originale. Et donc c'est ça qu'il faut essayer de mettre en lumière, c'est-à-dire que l'homme à l'origine se donne à une femme, et la femme reçoit son époux. Jean-Paul II, dans ses catéchèses, dit que lorsque l'homme et la femme se donnent l'un à l'autre dans le don le plus total qui est l'acte conjugal, c'est un sacrement. Dieu est présent totalement, et l'homme et la femme sont totalement unifiés, et de fait, le corps de la femme est fait pour accueillir. Et le corps de l'homme est fait pour donner. Et donc c'est ce qu'il faut essayer de présenter en accompagnant les personnes qui ont fait d'autres choix dans leur vocation d'homme et de femme, dans leur identité, dans leur expression sexuelle, parce que c'est principalement ça. Essayer de redécouvrir quelle est finalement cette beauté à l'origine. Et il n'y a jamais rien de figé. Une personne qui a pu faire des choix à un moment donné de sa vie, notre société est tout pressante et nous pousse à ne pas changer, au contraire même à nous enraciner dans nos choix, parce que du coup c'est notre identité. On s'identifie à une population, notre identité profonde et réelle, elle est en Dieu. Et c'est vraiment en accueillant Christ dans sa vie que Christ, d'abord, par l'Esprit Saint, va restaurer l'humanité de cette personne. Elle ne va pas enlever son histoire, elle va rester en mémoire. Pour autant, cette personne va avoir la liberté de faire un choix, de se réapproprier sa vraie identité d'homme. Sexué homme, de femme, et d'accueillir cette féminité ou cette masculinité comme un don, une joie, une merveille qui est donnée à l'humanité comme expression de Dieu. C'est ça qu'il faut regarder aussi, c'est que l'homme et la femme sont l'expression de Dieu. Et lorsque vous voyez quelqu'un devant vous, vous avez quelque part, Jésus ou une présence de Dieu, vous voyez. Il y a quelque chose de divin qui est devant vous. Et donc c'est ça qu'il faut présenter. Qu'il faut essayer de manière très douce, parce que c'est les personnes qui font ces choix-là. Moi-même, j'ai pu, moi, dans mon adolescence, douter dans ma sexualité. On passe tous par une période où on doit s'approprier qui nous sommes. Et l'environnement familial, l'environnement scolaire, l'environnement éducatif, associatif, surtout dans une société comme la nôtre qui est permissive sur ces plans-là, au contraire, qui promeut cette liberté de la sexualité, déstabilise la structure intérieure de la personne. Lorsqu'on chemine, lorsqu'on avance, on a du mal on fait des choix que l'on croit bons, et pour autant, ça ne nous révèle pas comme personne humaine. Voilà.
Oui, c'est vrai que la société, les tendances de la société actuelle nous poussent à la consommation, y compris dans le domaine des relations humaines.
Oui, tout à fait. Tout est chose consommable. Et on le voit bien dans les lois de bioéthique aujourd'hui. finalement, l'homme est une chose que l'on peut travailler, modifier, réinventer en prenant des génomes animaux et les mélangeant avec des génomes humains. C'est comme ce qui se passe dans la loi de bioéthique. Tout le monde n'en est pas conscient, mais on est en train de fabriquer des humanoïdes, d'une nouvelle espèce, hein, clairement. Alors que l'homme est est un animal raisonné, comme disait Aristote, mais derrière lui, Saint Thomas et Jean-Paul II. Notre société est aussi le fruit de notre permission, si vous voulez. C'est vrai qu'on pourrait faire autant de manifestations qu'on veut pour dire qu'on n'est pas d'accord. Pour autant, c'est d'abord dans un changement intérieur réel, une découverte réelle de notre vocation, du plan de Dieu pour l'homme, que du coup, en accueillant cette réalité-là profonde et vraie dans notre humanité, eh bien, lorsque Sainte Thérèse disait, lorsqu'une âme s'élève, elle élève le monde, et je crois profondément qu'on a chacun, chacune, à essayer d'accueillir ce projet de Dieu pour nous, de ne pas douter que ce que la société nous propose, il faut discerner si c'est bon ou pas, s'il y a de la vérité dedans, si ça nous élève et ça nous libère. C'est ça les deux critères, je crois, qu'il faut retenir. C'est que lorsqu'on on consomme les choses, est-ce qu'on le consomme parce qu'on en a besoin pour grandir en liberté? Est-ce que je le consomme pour juste combler un vide qu'il faut à ce moment-là aller découvrir ce vide? Pourquoi j'ai cette tendance à aller sur les sites pornographiques? Pourquoi je bois plus d'alcool? Pourquoi je fume des joints? Pourquoi je crie en permanence que je violente ma femme ou mes enfants? Qu'est-ce qui se passe dans un mal-être intérieur? Quel est ce vide, ce bonheur que je n'ai pas reçu et que je ne reçois pas et dont il y a comme une injustice? Eh bien, Dieu, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, je ne peux pas, mais et la mienne et de celle de plein d'autres, mais c'est que je peux vous dire que le Seigneur, quand on fait appel à lui, il vient vous visiter, il vient remplir votre cœur, il vient vous guérir, il vient vous restaurer, vous transformer, vous faire avancer, vous donner une perspective d'avenir, une espérance, une joie et un accueil de l'autre comme si c'était lui qui venait et l'autre a tout de vivre en humanité, en frère, homme et femme, il les créa, eh bien, on rencontre Christ à ce moment-là, dans sa réalité.
Eh bien, merci beaucoup pour cette émission, ce temps que vous nous avez accordé, Laurent Gervier.
Merci à vous.
Et puis, à très bientôt.
J'espère.
Merci, au revoir.
Au revoir, Céline.